Depuis qu'elle savait qu'Aureliano serait fusillé, Rebecca Buendia se levait à 3 heures tous les matins. Elle restait dans la chambre plongée dans l'obscurité, surveillant par la fenêtre entr'ouverte le mur du cimetière, cependant que le lit où elle se tenait assise vibrait à cause des ronflements de José Arcadio. Toute la semaine, elle attendit ainsi avec la même obstination secrète qu'elle montrait autrefois dans l'attente des lettres de Pietro Crespi. « On ne le fusillera pas ici, » lui disait José Arcadio. « Ils le fusilleront à minuit et à l'intérieur de la caserne pour que personne ne sache qui faisait partie du peloton, et je parie même qu'ils l'enterreront là-bas. » Rebecca continua d'attendre. « Ils sont tellement bêtes qu'ils viendront le fusiller ici, » répondait-elle. Elle en était si convaincue qu'elle avait prévu la façon dont elle ouvrirait la porte pour lui dire adieu d'un geste de la main. « Ils ne vont pas le conduire par les rues avec 6 soldats tremblant de peur, sachant que les gens sont prêts à tout, » insistait José Arcadio. Indifférente au raisonnement de son mari, Rebecca continuait son guet à la fenêtre. « Tu verras qu'ils sont assez bêtes pour ça, » faisait-elle. Le mardi, à 5 heures du matin, José Arcadio avait déjà bu son café et lâché les chiens quand Rebecca ferma la fenêtre et se cramponna à la tête du lit pour ne pas tomber. « Il l'amène !» soupira-t-elle. « Qu'il est beau !» José Arcadio se mit à la fenêtre et l'aperçut, tout frissonnant dans la clarté de l'aube, vêtu de pantalons qui avaient été les siens dans sa jeunesse. Il était déjà le dos au mur, les mains aux hanches, à cause des nodosités brûlantes de ses aisselles qui l'empêchaient de baisser les bras le long du corps. « Se faire avoir de cette manière, » murmurait le colonel Aureliano Buendia, « se faire baiser au point que ses pédés se mettent à 6 pour te descendre, sans que tu puisses rien faire. » Il remâchait cela avec tant de rage qu'on eût presque dit de la ferveur, et le capitaine Roque Carnicero en fut ému car il le crut en train de prier. Quand les hommes du peloton le mirent en joue, cette rage avait pris une consistance visqueuse, au goût amer, qui lui endormit la langue et l'obligea à fermer les yeux. Alors, s'éteignit pour lui l'éclat d'aluminium du lever du jour, et il se revit lui-même tout petit enfant en culotte courte et un ruban autour du cou, et il revit son père, par un après-midi splendide le conduisant jusque sous la tente de foire, et il revit le bloc de glace. Lorsqu'il entendit le cri, il crut qu'on donnait l'ordre final au peloton. Il rouvrit les yeux avec curiosité, tout secoué de frissons, s'attendant à se retrouver sur la trajectoire incandescente des projectiles, mais il ne retrouva en fait que le capitaine Roque Carnicero, les mains en l'air, et José Arcadio qui traversait la rue avec son effrayant fusil prêt à faire feu. « Ne tirez pas !» lança le capitaine à José Arcadio. « C'est la divine providence qui vous envoie !» Ici commença une autre guerre. Le capitaine Roque Carnicero et ses 6 hommes partirent avec le colonel Aureliano Buendia libérer le général révolutionnaire Victorio Medina, condamné à mort à Riohacha. Ils pensèrent gagner du temps en traversant la Sierra par le même chemin qu'avait emprunté José Arcadio Buendia au moment de la fondation de Macondo, mais, au bout d'une semaine, ils furent convaincus que c'était là une entreprise impossible. Aussi durent-ils suivre le dangereux itinéraire des contreforts, sans autre munition que celle du peloton d'exécution. Ils campaient à proximité des villages, et l'un d'eux, déguisé, tenant un petit poisson en or dans le creux de la main, y faisait son entrée en plein jour et prenait contact avec les libéraux au repos, qui, le lendemain matin, s'en allaient à la chasse pour ne plus jamais revenir. Lorsqu'à un détour de la Sierra, ils aperçurent Riohacha, le général Victorio Medina avait déjà été passé par les armes. Ses hommes proclamèrent le colonel Aureliano Buendia, chef des forces révolutionnaires, pour le littoral de la mer des Caraïbes, avec grade de général. Il voulut bien assumer cette fonction, mais refusa la promotion et se jura de ne jamais l'accepter tant qu'il n'aurait pas renversé le régime conservateur. Au bout de 3 mois, ils avaient réussi à armer plus de 1000 hommes, mais ils furent anéantis. Les quelques survivants gagnèrent la frontière orientale. Quand on entendit à nouveau parler d'eux, ils avaient débarqué au Cap de la Voile, venant de l'archipel des Antilles, et un communiqué gouvernemental diffusé par télégraphe et reproduit dans tout le pays sous forme d'avis plein de jubilation annonça la mort du colonel Aureliano Buendia. Mais 48 heures plus tard, un télégramme expédié partout, gagnant presque de vitesse le premier, annonça un autre soulèvement dans les plaines du Sud. Ainsi naquit la légende de l'ubiquité du colonel Aureliano Buendia. Des informations simultanées et contradictoires le déclaraient victorieux à Villanueva, battu à Guacamayal, dévoré par les Indiens Motilon, mort dans un petit village du Marigot et à nouveau insurgé du côté d'Urumita. Les dirigeants libéraux, qui négociaient à l'époque leur participation au Parlement, le signalèrent comme un aventurier ne représentant personne et n'appartenant à aucun parti. Le gouvernement le relégua au rang de bandit de grand chemin et mit sa tête à prix pour 5000 pesos. Après 16 revers, le colonel Aureliano Buendía sortit de la région de la Guajira à la tête de 2000 indigènes bien armés et la garnison surprise en plein sommeil dut abandonner Riohacha. Il y établit son quartier général et déclara une guerre sans merci contre le régime. Il reçut une première notification du gouvernement menaçant de fusiller le colonel Guerinaldo Marquez sous 48 heures s'il ne se repliait pas avec ses troupes jusqu'à la frontière orientale. Le colonel Roque Carnicero, qui était alors son chef d'état-major, lui remit le télégramme avec un air consterné, mais c'est avec une satisfaction tout à fait imprévisible qu'il en prit connaissance. « C'est épatant !» s'exclama-t-il. « Nous avons déjà le télégraphe à Macondo !» Sa réponse fut catégorique. Il comptait établir son quartier général à Macondo dans les 3 mois. S'il ne retrouvait pas alors le colonel Guerinaldo Marquez en vie, il fusillerait sans autre forme de procès tous les officiers qu'il aurait fait prisonniers, à commencer par les généraux, et donnerait ordre à ses subordonnés d'agir de la même façon jusqu'à la fin des hostilités. 3 mois plus tard, lorsqu'il entra victorieux à Macondo, la première personne à venir le serrer dans ses bras sur le chemin du Marigot fut le colonel Guerinaldo Marquez. La maison était pleine d'enfants. Ursula avait recueilli Sainte-Sophie de la Piété avec sa fille aînée et une paire de jumeaux qui vinrent au monde 5 mois après l'exécution d'Arcadio. À l'encontre des dernières volontés du fusillé, elle baptisa la petite fille du nom de Remedios. « Je suis sûre que c'est ce qu'Arcadio a voulu dire, » prétendit-elle. « Nous ne l'appellerons pas Ursula, parce qu'on souffre beaucoup trop avec un prénom pareil. » Quant aux jumeaux, elle les appela José Arcadio le second et Aureliano le second. Amaranta s'occupa de tous. Elle disposa des petites chaises en bois dans la salle commune et, avec d'autres enfants de familles voisines, organisa un jardin d'enfants. Lorsque le colonel Aureliano fut de retour, accueilli par les pétarades de fusées, les cloches carillonnantes, ce fut une chorale enfantine qui lui souhaita la bienvenue à la maison. Aureliano José, d'aussi haute stature que son grand-père, vêtu en officier révolutionnaire, lui rendit les honneurs militaires. Toutes les nouvelles n'étaient pas bonnes. Un an après la fuite du colonel Aureliano Buendía, José Arcadio et Rebecca s'en étaient allés vivre dans la maison construite par Arcadio. Personne ne fut jamais au courant de son intervention pour empêcher l'exécution. Dans la maison neuve, située à l'angle le plus favorable de la place, à l'ombre d'un amandier qui avait le privilège de 3 nids de rouge-gorge, avec une grande porte pour recevoir les visiteurs et 4 fenêtres pour la lumière, ils établirent un foyer des plus accueillants. Les anciennes amies de Rebecca, parmi lesquelles 4 sœurs moscotées, restées célibataires, reprirent les séances de broderie interrompues des années auparavant sous la véranda au Bégonia. José Arcadio continua d'exploiter les terres usurpées dont les titres de propriété furent validés par le gouvernement conservateur. Chaque après-midi, on le voyait revenir à cheval avec sa meute de chiens des montagnes et son fusil à 2 coups et une ribambelle de lapin pendue à sa monture. Un après-midi de septembre, sentant l'orage menacé, il rentra à la maison plus tôt que de coutume. Il salua Rebecca installée dans la salle à manger, attacha ses chiens dans le patio, suspendit les lapins dans la cuisine afin de les saler un peu plus tard, et alla se changer dans la chambre. Par la suite, Rebecca déclara qu'au moment où son mari pénétrait dans la chambre, elle-même s'était enfermée pour prendre un bain et ne s'était rendue compte de rien. Cette version des faits était à peine croyable. Mais on n'en possédait aucune autre qui fût plus vraisemblable, et personne ne put concevoir pour quel motif Rebecca aurait assassiné l'homme qui l'avait rendue si heureuse. Peut-être fut-ce là le seul mystère qu'on ne put jamais élucider à Macondo. Dès que José Arcadio eut refermé la porte de la chambre à coucher, un coup de pistolet retentit entre les murs de la maison. Un filet de sang passa sous la porte, traversa la salle commune, sortit dans la rue, prit le plus court chemin parmi les différents trottoirs, descendit des escaliers et remonta des parapets, longea la rue au Turc, prit un tournant à droite, puis un autre à gauche, tourna à angle droit devant la maison des Buendía, passa sous la porte close, traversa le salon en rasant les murs pour ne pas tacher les tapis, poursuivit sa route par l'autre salle, décrivit une large courbe pour éviter la table de la salle à manger, entra sous la véranda au Bégonia, et passa sans être vu sous la chaise d'Amaranta, qui donnait une leçon d'arithmétique à Aureliano José, s'introduisit dans la réserve à grains et déboucha dans la cuisine où Ursula s'apprêtait à casser 3 douzaines d'œufs pour le pain. « Ave Maria très pure !» s'écria Ursula. Elle suivit le filet de sang en sens inverse, et, cherchant son origine, traversa la réserve à grains, passa sous la véranda au bégonia, où Aureliano Rossé chantait « Que 3 et 3 font 6, et 6 et 3 font 9 ». Traversa la salle à manger et les salons, continua en ligne droite dans la rue, puis tourna à droite, ensuite à gauche, jusqu'à la rue aux Turcs, sans se rappeler qu'elle portait encore son tablier de boulangère et ses chaussons d'intérieur. Déboucha sur la place et entra par la porte d'une maison où elle n'avait jamais mis les pieds, poussa la porte de la chambre à coucher et faillit être étouffée par l'odeur de poudre brûlée, trouva José Arcadio allongé face contre terre sur ses bottes qu'il venait de quitter et elle aperçut d'où était parti le filet de sang qui avait déjà cessé de couler de l'oreille droite. On ne découvrit aucune blessure sur le corps et on ne put davantage trouver où était l'arme. Il s'avéra également impossible de débarrasser le cadavre de sa tenace odeur de poudre. On commença par le laver à 3 reprises, avec une lavette et du savon, puis on le frotta au sel et au vinaigre, ensuite avec de la cendre et du citron. Et pour finir, on le mit dans un tonneau plein de lessive où on le laissa tremper pendant 6 heures. On le frictionna tant et si bien que les arabesques des tatouages commencèrent à se décolorer. Quand on en vint, en désespoir de cause, à imaginer de l'assaisonner avec du piment, du cumin et de feuilles de laurier, et de le faire bouillir toute une journée à feu doux, il avait déjà commencé à se décomposer, et on dut l'enterrer précipitamment. On l'enferma hermétiquement dans un cercueil sur mesure de 2,30 m de long sur 1,10 m de large, renforcé à l'intérieur par des plaques de fer et vissé à l'aide de boulons d'acier, et même ainsi, on n'empêcha pas l'odeur de se répandre dans les rues qu'emprunta l'enterrement. Le père Nicanor, à cause de son foie enflé et tendu comme un tambour, lui donna sa bénédiction depuis son lit. On eut beau, dans les mois qui suivirent, renforcer sa sépulture par plusieurs murs superposés, entre lesquels furent jetés pêle-mêle de la cendre tassée, du son et de la chaux vive, le cimetière continua à sentir la poudre pendant nombre d'années encore, jusqu'à ce que les ingénieurs de la compagnie bananière fissent recouvrir la tombe d'une carapace de béton. Dès qu'on eut sorti le cadavre, Rebecca ferma les portes de sa maison et s'enterra vivante, entourée d'une épaisse gangue de mépris qu'aucune tentation en ce bas monde ne devait parvenir à rompre. Elle ne descendit dans la rue qu'une seule fois, déjà très vieille, avec des souliers couleur de vieil argent et un chapeau à fleurs minuscules, à l'époque où le village vit passer le juif errant qui provoqua un accès de chaleur si intense que les oiseaux brisaient les grillages des fenêtres pour venir mourir dans les chambres. Elle fut aperçue en vie pour la dernière fois le jour où, d'un coup de pistolet bien ajusté, elle tua un voleur qui tentait de forcer la porte de sa maison. Hormis Argenida, sa domestique et confidente, personne depuis lors n'eut de contact avec elle. À une certaine époque, on sut qu'elle écrivait des lettres à l'évêque, qu'elle considérait comme son cousin Germain, mais il ne fut jamais dit qu'elle eût reçu de réponse. Le village l'oublia.